Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, faut-il réhabiliter le missionnaire du samedi soir ? Alerte rouge, la jeunesse française est sous influence, celle du porno. Vendredi dernier, des professionnels de santé ont interpellé les pouvoirs publics sur le sujet. Leur inquiétude, la surexposition des enfants et des adolescents à la pornographie, comme en témoigne une étude récente publiée par la Fondapol, où l'on apprend par exemple que 9% des 11-14 ans y seraient confrontés plusieurs fois par jour. Le principal problème soulevé, c'est l'impact de certaines pratiques sexuelles hors normes sur le développement de ces jeunes. Ils n'ont pas l'appareil critique nécessaire pour se défendre, estime le professeur Israël Nizan. Comment construire sa propre sexualité, ses propres fantasmes avec de telles représentations ? Alors à vrai dire, les jeunes ne sont pas les seuls concernés. La diffusion massive de la pornographie, mais aussi la promotion dans les magazines de pratiques nouvelles ou supposées telles, contribuent à mettre des enjeux de performance là où il ne devrait y avoir que du lâcher prise. Elles conduisent aussi à ringardiser le sexe à la papa sur le mode « si t'as pas fait de partouze avant 50 ans, t'as raté ta vie ». Mais le Covid ordinaire ne mériterait-il pas davantage de considération ? Faut-il donc réhabiliter le missionnaire du samedi soir ? C'est la question du jour en compagnie de trois invités, à commencer par vous, Galafur, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivaine et cinéaste, vous avez publié plusieurs ouvrages aux éditions de La Musardine, j'en citerai deux, Le dictionnaire du BDSM, c'était en 2016, mais également Osez tout savoir sur le sadomasochisme, ouvrage que vous avez publié en 2003. Pour discuter avec vous, le docteur Capote, bonsoir.
Bonsoir.
C'est un pseudo.
Oui, c'est un pseudo. Ouais.
On ne donnera pas votre véritable identité, ce qui vous permettra d'avoir peut-être davantage de liberté de parole. Vous êtes, votre métier, c'est animateur de prévention dans les établissements scolaires en région parisienne. Vous êtes par ailleurs chroniqueur dans Causette. Et vous avez publié récemment Génération Q aux éditions La Ville Brûle. Et puis notre troisième invité, Pauline Verdusier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialisée dans les questions de genre et de sexualité. Vous faites partie d'un collectif, le collectif des Journalopes. Et vous collaborez notamment à Slate, au magazine Néon ou encore à Santé Magazine. Alors je voudrais d'abord qu'on commence cette discussion en évoquant cette interpellation donc, des pouvoirs publics par des professionnels de santé, c'était vendredi dernier, sur les dangers liés à la surexposition des mineurs au porno. Est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez les uns et les autres, bien est-ce que vous considérez qu'il y a peut-être une dramatisation excessive de l'impact de la pornographie chez les enfants et chez les adolescents ? Je commence par vous, docteur Capote, puisque c'est votre métier que d'être en contact avec eux.
Oui, oui, c'est réel, hein, l'inquiétude. Après, moi, je méfie toujours entre les études et la réalité du terrain, la partie fantasmée un petit peu aussi. Nous, on les voit en groupe, donc du coup, forcément, ils se livrent pas complètement ou ils vont peut-être en rajouter dans la posture. En tout cas, de toute façon, c'est clair qu'avec un smartphone, on peut se connecter à Pornhub en quelques secondes. Ça, on le sait tous, quoi. Maintenant, on parle beaucoup du porno, mais on a un peu oublié quand même aussi le partage de l'intimité sur les réseaux sociaux, qui à mon avis, fait partie aussi des difficultés et des dangers que peuvent rencontrer les ados. Quoi.
On fait peser beaucoup de responsabilités sur le porno. Peut-être que, à Galafur, vous me faites ce signe que vous n'avez pas forcément envie d'intervenir. Bah, vous, est-ce que, je sais pas, ce qui est intéressant aussi, c'est votre itinéraire personnel. Est-ce que le porno, ça a pu être une porte d'entrée vers la sexualité pour vous et vers le BDSM, dont il faut peut-être d'ailleurs préciser ce que ça veut dire, un BDSM.
Alors, BDSM, c'est bondage, domination, soumission, hein, principalement. Donc, les jeux de rôle qui sont des jeux de pouvoir plus le bondage. Et c'est vrai que la pornographie, bon, on peut dire que ça banalise absolument toutes les pratiques. Tout devient comme une vitrine avec toutes sortes de choses. Après, est-ce que vraiment c'est une porte d'entrée ? Est-ce que des gens arrivent parce qu'ils ont vu ça sur du porno ? Non, j'y crois pas vraiment. Non.
En tout cas, est-ce que c'est une banalisation qui peut être problématique lorsqu'elle concerne des enfants et des adolescents ?
Moi, je crois à tous les âges, oui, pour les enfants, oui, mais plus âgés aussi. Enfin, je veux dire, sur ma page Facebook, j'ai tous les jours une cinquantaine de personnes qui demandent un lien d'amitié. Et c'est très inquiétant, parce que quand je vois les noms des personnes, il est certain que le BDSM n'est pas dans leur culture. C'est une pratique, enfin, ce sont des pratiques théâtrales et esthétiques, et ce n'est pas dans la culture des personnes qui me sollicitent.
Et vous qui écrivez, hein, qui enquêtez sur les questions de sexualité, Pauline Verdusier, est-ce que on sait, on arrive à savoir, c'est quand même si la pornographie est vraiment devenue, disons, le lieu d'apprentissage aujourd'hui pour les jeunes, pour les adolescents en particulier?
Oui, et ça me fera répondre à la première question aussi. En fait, l'accès à la pornographie semble massif. Dès le plus jeune âge, je sais plus quel est l'âge moyen d'accès au porno. Je crois que c'est quand même très tôt. Enfin, c'est vers peut-être 11, 12 ans, il me semble, peut-être même avant. En tout cas, ce qui pose problème, ce n'est pas forcément uniquement la pornographie. Disons, c'est le fait que ça soit le seul discours sur la sexualité qui existe pendant de nombreuses années pour des jeunes. Et c'est les seules ressources en fait qui sont à leur disposition, c'est-à-dire que dans les établissements scolaires par exemple, normalement la loi impose d'avoir des cours d'éducation à la sexualité, à la vie sentimentale, à la vie sexuelle amoureuse. Cette loi n'est pas respectée, je pense que le docteur Capote pourra aussi en parler, et donc le problème en fait c'est le fait qu'on est focalisé sur le discours pornographique qui pendant longtemps est le seul discours à la disposition de ces jeunes et qui transmet une vision assez rétrograde, notamment des femmes, mais aussi des hommes, puisque ça renvoie à des schémas très classiques de sexualité masculine qui serait dans la domination, de sexualité féminine dans la soumission, qui sont pas très heureux pour des jeunes comme entrée dans la sexualité.
Docteur Capote, ça me fait bizarre de vous interpeller comme ça, mais vous qui êtes donc animateur de prévention dans les établissements scolaires, vous partagez le constat de Pauline Verdusier?
Ouais, il y a des trucs moi qui me rassure un peu, c'est que souvent les jeunes quand ils parlent de pornographie, ils sont un peu gênés, ils se renvoient un peu la balle entre eux, donc du coup ils savent qu'ils sont à la transgression encore, c'est pas hyper banalisé, et le fait qu'ils soient encore gênés, je trouve que c'est finalement c'est plutôt rassurant, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, ils revendiquent pas totalement le fait d'aller effectivement sur les sites porno. Donc ça, il y a quand même une étape encore qui est pas encore franchie.
Ensuite, ils sont pas tous encore gênés, hein, si je vous lis. De nos jours, alors quand vous évoquez justement la pornographie dans votre livre. De nos jours, certains sont déjà dans le vif du sujet à 15 ans, à grand renfort, attention, oreilles chastes, s'abstenir, d'éjac facial, de gangbang et de fellation jusqu'au boule.
Ouais, c'est vrai. Ils le disent, mais quand on leur renvoie du coup des questions sur le sujet, ils sont gênés. Donc il y a une partie provo quand même. Hein. Je pense que ils vont sur le porno. Alors c'est vrai que quand on voit les déroulés des différents menus sur le porno, c'est très large. Hein. C'est même assez hallucinant. La sexualité est hyper segmentée en fait. Ce qui est intéressant quand même, moi je trouve, c'est qu'ils restent encore un peu gênés. Ça c'est moi je trouve que c'est quand même un fil intéressant. Alors après, en même temps, on a laissé pendant des années sur YouTube Amine Morito mettre des grosses claques sur les fesses des filles qui filmaient. On a laissé tout un tas de choses comme ça passer et finalement, d'un seul coup, on se réveille sur le porno. Mais en même temps, aujourd'hui, quand on vend la Fiat, je sais plus quoi d'ailleurs, enfin, on s'en fout un peu, on met du Viagra dans le réservoir pour qu'elle grossisse, quoi. Donc, il faut quand même être clair avec les messages qu'on véhicule aussi, nous les adultes.
Voilà, référence à une publicité pour une marque automobile, effectivement, oui, qui est rendue plus puissante. Non, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas justement cette pub qui est rendue plus puissante en lui donnant du Viagra dans son réservoir. Pauline Verdusier.
Oui, et puis en plus, cette image-là rétrograde de la sexualité, elle est aussi visible dans des fictions à l'eau de rose. Le nombre de comédies où la femme, quand même, elle n'a pas spécialement envie, où c'est quand même très caricatural, ça existe aussi. Le porno n'a pas été, oui, le premier à pointer ça, je suis d'accord. Et surtout, je ne suis pas sûre qu'en fait, les jeunes reproduisent exactement ce qu'ils voient. Je pense juste que c'est la seule référence qu'ils ont, peut-être qu'ils vont essayer de reproduire des choses, mais parce qu'on ne leur a pas dit qu'il y avait d'autres schémas possibles.
J'ai cru comprendre dans votre première intervention, Galafur, que vous regrettiez, peut-être que vous déploriez le fait que certaines pratiques radicales comme le BDSM se soient presque normalisées. Est-ce que c'est le cas?
Oui, mais c'est pas, enfin, la normalisation, non, c'est pas vraiment une normalisation, mais disons que ça attire de plus en plus de gens et c'est vraiment comme des éphémères autour d'un réverbère. Et j'ai des tas de personnes qui m'écrivent, par exemple, qu'ils veulent être des money slaves, donc payer une femme pour rien, juste comme ça, ou bien être des sissy boys, donc des jeunes garçons comme ça qui sont là pour parader dans votre salon avec des talons aiguilles. Donc je me demande
sissy boy, pardon, ça veut dire c'est référence à Sicile impératrice ou ça
n'a
rien à voir?
Non, pas du tout, non. non. Sissy Boy, c'est des garçons un peu gentils, un peu mous, un peu féminins et qui sont décoratifs, au fait, les Sissy Boy. Et donc, il y a tous ces fantasmes qui arrivent, je ne sais pas d'où. Et en fait, ces garçons n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Ils ont 18 ans, 20 ans, 22 ans. Bon, je ne pense pas que ça vienne de la pornographie, mais ça vient des réseaux sociaux, ça vient de ce qu'ils ont pu pêcher à droite à gauche sur Internet.
Et qu'est-ce que vous leur répondez? Non, ça n'est pas ça, par exemple le BDSM, ou alors vous êtes trop jeune, vous n'avez rien compris?
Non, moi je les laisse dans leur fantasme, je trouve ça très amusant. Enfin, c'est vraiment pas dangereux d'être un money slave ou d'être un sissy boy. C'est tout à fait sain pour commencer une vie sexuelle. Mais très souvent, ils ont très très peu de vie sexuelle, en fait. Et justement, pas de coït ordinaire, pas de relation suivie.
Docteur Capote, est-ce que justement, ça n'entretient pas aussi l'idée peut-être que le sexe aujourd'hui, la sexualité, ça doit passer forcément par des pratiques, alors appelons-les des pratiques hors normes, même si elles sont sans doute plus diffusées qu'on ne l'imagine. Là aussi, c'est compliqué de savoir précisément, parce qu'entre le déclaratif et puis ce qu'on fait effectivement dans l'intimité de la chambre à coucher, qui reste quand même aujourd'hui toujours le lieu majoritaire pour faire l'amour, même si ce n'est pas le lieu exclusif, heureusement d'ailleurs. Mais en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas l'idée qu'il faut forcément passer par un peu de radicalité aujourd'hui quand on fait l'apprentissage de la sexualité?
La chambre à coucher, déjà, les jeunes, c'est plus compliqué, déjà, parce qu'il faut ramener quelqu'un chez ses parents, c'est pas simple. Donc, du coup, je pense qu'eux, ils font l'amour plus à l'extérieur que les adultes. Donc, ils trouvent des lieux, des fois, un peu atypiques. Donc, pour le coup, il y a une part de fantasme qui peut être intéressante à travailler aussi avec eux. Mais non, sur la partie surenchère, je pense qu'effectivement, on est là-dessus. Mais tout le monde participe à ça. Moi, je me souviens très bien, à un moment donné, que les magazines féminins titraient sans arrêt que si on n'avait pas un sextoy dans son sac, on n'était pas clairement une vraie femme et qu'on n'était pas libre dans sa sexualité, et donc les injonctions entre la sexualité elles sont continuelles, donc ils sont finalement, moi je pense que les ados sont aussi le reflet, enfin ce qui nous renvoie c'est aussi le reflet de notre société aujourd'hui, donc si ce n'est que dans leur cas ils peuvent se faire un peu plus mal quoi.
À propos d'ailleurs de la presse magazine, on a mis en lien sur notre site un article qui a été rédigé pour France Culture, qui est signé Chloé Leprince. Elle revient justement sur cette mode des dossiers dans la presse magazine consacrés, alors par exemple, au ass-eating, au hot-dogging, au stealthing. Pour une fois, d'habitude, je fais en sorte de toujours traduire les anglicismes. Là, si vous voulez bien, je vais m'abstenir sur certains d'entre eux. Mais c'est vrai que c'est un phénomène assez global. On a presque l'impression, Pauline Verduzier, que c'est ce que je disais un petit peu en introduction de l'émission. C'est-à-dire, en gros, je faisais référence à cette fameuse phrase de Jacques Séguéla, si à 50 ans t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. Là, ça serait presque, voilà, si à 50 ans, sans doute même avant, t'as pas fait une partouze, c'est que t'as raté ta vie, c'est que t'es un peu un ringard.
Oui, c'est-à-dire que dans nos sociétés occidentales, il y a une projection sur la sexualité qui est vue comme non seulement un espace de bien-être et de santé, ce qui ça est plutôt positif, mais aussi un espace de réalisation de soi, d'identité, c'est-à-dire qu'on va projeter énormément. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à tenir, je sais pas, une érection, peut-être que, voilà, on n'est pas un homme, on n'est pas un loser, on peut pas être un chef d'entreprise. En fait, il y a beaucoup de notions d'identité qui tournent autour de la sexualité, qu'on projette énormément. Et dans tous ces dossiers qu'on lit, justement, il y a aussi des injonctions hyper paradoxales entre épanouissez-vous sexuellement, faites l'amour souvent. Enfin, en fait, ce n'est que sur le thème de l'injonction. Épanouissez-vous, faites plein de pratiques différentes. Et en même temps, on est toujours dans un cadre, il faut le rappeler, quand même extrêmement patriarcal, c'est-à-dire centré autour de la pénétration. Un rapport sexuel de basique, quand on dit on fait l'amour, ça, c'est souvent dans le discours préliminaire pénétration vaginale, éjaculation de l'homme. Et ça, ce sont des choses qui perdurent, en fait, dans les images sexuelles et même dans ces dossiers qui, soi-disant, révolutionnent la sexualité féminine.
Je vois que vos propos font réagir égal à fur. Et le docteur Capote Galafur.
Oui, bien sûr. Enfin, c'est la pénétration, c'est le must dans la sexualité classique aussi. Mais dans le BDSM, il n'y en a pas beaucoup de pénétration. Ou alors, c'est plutôt avec des objets, des godemichés, etc. Donc, bon, c'est vrai que le BDSM ne participe en général pas trop de ces pratiques-là, quoi.
Docteur Capote.
Oui, et puis c'est vrai que c'est très hétérocentré tout ce qu'on nous propose, donc on oublie quand même les minorités de genre et déjà. Et puis au-delà de ça, y a quand même une violence effectivement très sexiste, hein, et entre autres dans les titres. Hein, moi, je regarde souvent les titres. Alors, je m'amuse pas à passer mes minuits sur le porno et sur Pornhub et compagnie, mais de temps en temps, je vais quand même voir un peu ce qui s'y passe parce que les jeunes m'en parlent. Et c'est vrai que les titres sont affligeants. On est toujours dans, cette femme a envie de prendre du plaisir et passe un bon moment avec avec son compagnon ou plusieurs compagnons si elle a envie. C'est toujours, elle se fait défoncer. Alors, je suis désolé pour les termes, mais etc. Donc, on est toujours dans des mots très violents en fait.
Est-ce que ça n'est pas aussi cette violence que véhicule, si ce n'est le BDSM, en tout cas la perception qu'on peut avoir de ces pratiques, le bondage, le sadomasochisme, Galafur ?
Et disons que ce sont des pratiques à risque, ça c'est évident. Donc il y a des règles justement pour que tout le monde se comporte correctement. Et il peut d'ailleurs y avoir des dérives, il vient d'en avoir une dans un endroit qui s'appelle la Place des Cordes, qui était réservée donc au bondage, au shibari, etc., où des jeunes femmes qui étaient donc encordées ont subi des attouchements, parce qu'évidemment c'est facile lorsqu'on a une jeune fille et une jeune femme dans les cordes de la toucher en même temps, enfin de la ploter et tout ça. Donc il y a des dérives possibles lorsque les règles ne sont pas vraiment respectées et lorsque peut-être ces règles ne sont pas posées déjà pour commencer.
Vous avez parlé du shibari, qu'est-ce que c'est le shibari ?
Alors, le shibari, c'est du bondage à la japonaise. C'est une pratique absolument sadomasochiste, mais qui se présente, par exemple, à la Place des Cordes, comme une pratique bisounours, c'est-à-dire qu'entre 5 et 7 ou 7 et 9 le soir, on va là-bas, on prend une petite tisane d'hibiscus, on attache ou bien on se fait attacher sur son jean, sur son t-shirt, etc. Voilà, c'est une happy hour bisounours. Mais en fait, c'est pas ça du tout, le shibari. C'est une pratique sadomasochiste à risque, donc il faut savoir passer les cordes et puis il faut un respect total de l'autre, ce qui n'a pas été le cas à Place des Cordes.
Maya Mazorette, qui est chroniqueuse pour le journal Le Monde et à qui on a emprunté le titre de ce soir, hein, le missionnaire du samedi soir, l'idée de cet amour à la papa qu'on faisait, peut-être qu'on fantasme aussi l'idée qu'il y avait comme ça un jour dédié à la pratique sexuelle après avoir regardé par exemple Michel Drucker à la télévision, dit notamment ceci dans une de ses chroniques. Combien de temps va-t-on nous vendre les mêmes fantasmes de brusquerie, mots grossiers, abus divers, mépriser la tendresse, c'est un luxe pour les élites surchouchoutées. Qu'en pensez-vous, Pauline Verdusier ?
Je pense que ce qu'il faut réhabiliter, c'est pas particulièrement le missionnaire du samedi soir, c'est le sexe dont on a envie, qui nous fait du bien, qu'on a choisi pour soi. Et en fait, je pense qu'il peut y avoir des pratiques, par exemple de BDSM, qui peuvent être consenties et faites entre guillemets dans la tendresse, c'est-à-dire je le veux ça pour moi, comme des missionnaires du samedi soir qui sont en fait des viols conjugaux. Je pense qu'on peut pas tout mélanger. En fait, ce qu'il faut réhabiliter, c'est ce qui est bon pour soi et savoir pourquoi on le fait. Si on fait un missionnaire du samedi soir, est-ce qu'on le fait parce que la société nous le demande, parce que notre partenaire nous le demande ou parce que ça nous fait vraiment plaisir? Je pense que c'est ça la question centrale et c'est pas une question de différencier la tendresse ou la violence. Il peut y avoir des violences tendres et de la tendresse violente.
Mais par rapport aussi à la responsabilité des élites, parce qu'on parle du porno, on parle des magazines, on parle des réseaux sociaux, mais il peut aussi y avoir certaines normes qui sont justement édictées ou valorisées par les élites intellectuelles. Avant de vous faire réagir là-dessus, je voudrais vous faire entendre, alors c'est une parodie, ça date d'il y a quelques années, c'était dans l'émission Palace. Écoutez, c'est une préparation à la prochaine partouze.
S'il vous plaît, mesdames, messieurs, pardonnez-moi de vous déranger, mais ma femme et moi cherchons des partenaires pour partouzer. Est-ce qu'il y en a parmi vous, ça intéresse?
Qu'entendez-vous exactement par partouzer?
Oh, c'est très simple. Faire toute une série de combinaisons à plusieurs couples, échanger son épouse avec celle d'un autre, se mettre à trois ou quatre sur une femme, ou l'inverse, enfin, s'envoyer en l'air de toutes les façons possibles et imaginables.
Mais nous sommes partants. Vous n'avez rien contre les trucs pervers.
Du style?
Oh, du style, lanière de cuir. Oui, ou alors obligé d'un entre-nous à regarder sa femme se faire fesser par le valet de chambre pendant que lui, avec une bougie...
Pas de problème. Au contraire. Et s'il y en a qui aiment, ma femme fait très bien la roulette Pompadour.
C'est la position suspendue.
Extrait donc de ce sketch de l'émission Palace de Jean-Michel Ribes. Je voyais sourire Galafur. C'est une parodie, bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité, comme dans toute parodie, finalement, c'est-à-dire une forme de snobisme aussi dans certaines pratiques sexuelles qui finissent peut-être aussi par intimider ceux qui ne participent pas, qui ne sont pas des pratiquants du bondage, du SM, de la partouze, par exemple.
Bah, c'est comme la consommation en général. Je veux dire, tout le monde veut une voiture, tout le monde veut une belle voiture, un bel appartement, etc. Donc, il faut aussi surconsommer le sexe, la partouze, le BDSM. On est dans une surenchère permanente. C'est pour ça d'ailleurs que sur Facebook, par exemple, il y a tant de gens qui recherchent une femme qui pourrait dominer, être dominatrice, etc. On voit apparaître toutes sortes de fantasmes qui sont autant de friandises.
Oui, mais je vous interrogeais, moi, sur le snobisme, peut-être, de ce milieu et de ses pratiques.
Le snobisme du BDSM aujourd'hui, ouais. Non. Il est complètement banalisé, démocratisé. Il n'y a plus aucun snobisme dans le BDSM, ça je vous assure.
Docteur Capote, le BDSM, d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qui revient dans les conversations que vous pouvez avoir avec les adolescents dans les lycées ?
Oh, il arrive que les ados en parlent. Enfin, moi, je n'en parle pas, sinon j'aurais des problèmes avec les parents d'élèves, je pense. Mais pour le coup, oui, ils en parlent, parce que forcément, ils le voient dans les menus du porno, mais ils ne vont pas très loin là-dessus. Il y a un petit côté un peu inquiétant autour du BSM pour des jeunes, enfin ce que je peux comprendre aussi, hein, c'est faut le temps quand même de se connaître avant, effectivement. Mais je voulais revenir par rapport à ce qu'on a entendu là, parce que c'est intéressant quand même, hein. C'est ma femme qui se fait frapper sur les fesses, c'est ma femme qui est sous plusieurs mecs, etc. C'est pas le mec qui se fait frapper par les fesses, on est toujours dans le même truc, hein.
Ça remonte, je pense, aux années 80, 90.
Oui, mais enfin bon, c'est toujours ça, mais finalement,
non, mais c'est juste pour oui. Situer dans le temps.
Mais c'est vrai que ce serait bien qu'on passe un jour aux actes réellement par rapport à ça, parce qu'on parle beaucoup et le sexisme, il est omniprésent et on l'accepte, on le fait perdurer sous le ton de la vanne, de la rigolade, mais il est bien là et moi je le retrouve dans les lycées. On travaille là-dessus sur les stéréotypes de genre et l'impact sur la sexualité.
J'étais très surpris d'entendre il y a quelques jours de cela, c'est très très récent, le résultat d'une étude du Centre National du Livre sur les jeunes et la lecture. Alors, vous allez me dire quel rapport avec le sujet de ce soir ? Eh bien si, il y en a quand même un. Alors c'est une étude sur les 15-25 ans. Et il s'avère, alors qu'ils lisent beaucoup plus que ce qu'on imagine, et qu'il y a trois titres qui sont plébiscités par les jeunes de 15-25 ans. Harry Potter, il y a After. Alors After, je ne connais pas bien, mais je crois que c'est un peu une romance entre adolescents. J'espère que je ne me trompe pas trop. Et il y a 50 nuances degrés. 50 nuances degrés, qui pour moi était vraiment le roman destiné. Alors on parlait de porn mum à l'époque, c'est-à-dire plutôt pour les mamans. Et manifestement, c'est quelque chose aussi qui se diffuse énormément chez les jeunes. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose que vous avez pu constater, Pauline Verduzier ?
Non, pas particulièrement. Enfin, moi, justement, ça m'a beaucoup étonnée. Mais je pense que c'est parce que 50 nuances degrés, au fond, c'est une histoire d'une femme qui se fait conquérir par un homme très riche, qui lui offre des voitures, une maison et qui va lui-même l'initier aux pratiques BDSM, mais au début quand même plus ou moins contre son gré. Enfin, en tout cas, c'est pas très clair. Ce n'est ni plus ni moins que le scénario classique, en fait, de nombre de bluettes romantiques destinées à des jeunes filles pour les entretenir dans des rôles stéréotypés. Donc finalement, c'est quand même dommage. Après, je veux pas brûler 50 nuances degrés si ça peut permettre de faire lire, mais c'est vrai que ça m'interpelle de me dire que ça puisse toucher un public jeune. Ça m'interpelle.
Vous voulez pas le brûler non plus, vous, Galafur ?
C'est vrai que c'est vraiment pas une source de fantasme. Il y a absolument rien de fantasmatique dans ce livre. On est dans une histoire, une espèce de petit conte de fées, une romance, etc. Mais en même temps, c'est la mode de la romance. Donc, c'est comme les romans de Daly autrefois, et les jeunes filles adorent les romances.
Alors moi, je n'ai pas lu ce livre. J'en avais lu des extraits parce qu'on y avait consacré une émission sur le phénomène éditorial que ça avait représenté il y a quelques années. Mais manifestement, il y a eu aussi l'idée de pimenter les relations sexuelles, hein, qui expliquerait aussi le succès de cet ouvrage. Or, manifestement, c'est quelque chose qui pour vous, Galafur, est absolument essentiel. J'en veux pour preuve une interview que vous aviez donnée pour le magazine Vice, à Pauline Verduzier, justement. Je sais plus quand est-ce que c'était. Et vous aviez notamment cette phrase, qui était mise en exergue de l'article, que je trouve vraiment extraordinaire. Disiez, personnellement, je ne vois pas le plaisir qu'on peut trouver dans un coït ordinaire. J'en suis incapable. Je préfère prendre une tasse de thé. J'aimerais que vous développiez un petit peu cette idée, si c'est toujours la vôtre.
Oui, c'est toujours mon idée. Oui, je trouve le coït ordinaire extrêmement ennuyeux. Je n'ai absolument aucune passion pour ce genre de pratique, étant trop cérébrale. S'il n'y a pas, disons, une mise en scène esthétique, s'il n'y a pas un rapport cérébral avec la personne, s'il n'y a pas un jeu de rôle, un jeu de pouvoir qui se construit, bien sûr, au fil du temps, pour moi, la sexualité n'a pas d'intérêt. Donc, je ne suis pas d'accord avec la position du missionnaire du tout.
Est-ce que justement, ça c'est quelque chose que vous pouvez peut-être retrouver dans les préoccupations, disons, des adolescents avec qui vous conversez, docteur Capote, c'est-à-dire d'essayer de sortir de l'ordinaire et d'avoir peut-être la crainte d'être un peu ringard, un peu sous-développé parce qu'on se contenterait finalement de faire l'amour de manière extrêmement basique, disons.
Pour être clair, que ce soit le missionnaire ou la brouette japonaise ou ce qu'on veut, franchement, moi, ce qui m'intéresse surtout avec eux, c'est que ce soit consenti déjà, et puis que ce soit safe, quoi. Puisque du coup, on est quand même dans la prévention. Je suis là 2 heures avec eux, donc safe, c'est se protéger pour éviter effectivement les infections sexuellement transmissibles et puis les grossesses non prévues, non désirées. Enfin, on dit plutôt non prévues aujourd'hui. Mais voilà, donc ça, c'est déjà la priorité. Après, le fantasme, il fait partie. Tout à chacun, donc que les ados fantasment aussi, c'est logique. Moi, je me suis entendu là. Moi, j'étais plutôt de la génération 9 semaines et demie, le coup du frigo avec la nourriture, etc. Bon, on l'a tous tenté, quoi. Bon, avec plus ou moins de bonheur, mais on l'a fait, quoi.
Il y a d'ailleurs un extrait d'un propos qui est tenu par un jeune dans votre livre qui évoque Emmanuel. Qui dit voilà c'est j'ai vu le film de boules de votre époque et tout, on voit rien, c'est pas terrible, voilà.
Ouais, trouvé ça assez
donc
mou,
on
ouais.
Voit bien qu'effectivement avec les époques la représentation de la sexualité et les fantasmes évoluent évidemment. Alors il y a la question des fantasmes, mais il y a aussi cette question que vous évoquiez tout à l'heure, Pauline Verdusier, qui est celui de la performance, c'est-à-dire que là aussi ce que véhicule quand même, me semble-t-il, notamment la pornographie, c'est l'idée que l'acte sexuel ne peut pas être raté, qu'il faut réussir à chaque fois, et que ça, du coup, ça met une certaine pression. Ça met notamment une certaine pression dans les couples. Et vous avez, vous, rencontré dans le cadre d'un de vos reportages pour le magazine Néon, des femmes qui sont en couple, qui sont américaines, ça se passe à New York, et dont la, peut-être pas la principale préoccupation, en tout cas, une des grandes préoccupations, c'est de ne pas décevoir leur conjoint.
Oui, c'est vrai que cette notion de performance, elle est beaucoup subie par les hommes, mais aussi par les femmes, puisqu'il faut être dans une certaine attitude, il faut plaire, il faut être un bon coup, être bonne au lit, mais en même temps être quand même pas trop salope. Enfin, il y a beaucoup d'injonctions contradictoires. Dans ce reportage, en fait, c'était un cours de fellation. Donc, en fait, il y avait des femmes qui, avant de se lancer, il y avait même des personnes qui n'avaient jamais pratiqué la fellation, se rendaient en fait dans un cours, mais bienveillant, voilà, dans un cadre plutôt féministe, mais pour apprendre avec une banane toutes sortes de techniques, avec les doigts, la langue, les dents. Et c'est vrai que ça interpelle, parce que là-dedans, il y avait une femme qui m'a parlé notamment qui était vierge. Et je me suis dit, est-ce que ça veut dire qu'il y a une telle pression qui pèse sur ses épaules qu'elle doit savoir comment faire avant? Et surtout, est-ce que l'entrée dans la sexualité se fait par la fellation, ça pose plein de questions en fait.
Et ce qui est très intéressant justement dans les témoignages que vous avez recueillis, c'est que finalement on se rend compte à la fois à travers cette massification, la diffusion de la sexualité et de la pornographie, que les questions, elles semblent assez éternelles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut apprendre à faire l'amour? Vous en pensez quoi, Galafur? Est-ce que ça s'apprend? Faire l'amour.
Je crois qu'il y aurait certainement besoin de cours d'éducation sexuelle, comme le disait Pauline Verdusier tout à l'heure, à l'école. Et c'est vrai qu'en Suède, par exemple, il y a des cours d'éducation sexuelle avec l'équivalent d'une banane pour mettre un préservatif dessus. Enfin bon, dans d'autres pays aussi. Donc la France est très en retard à ce niveau-là. Et c'est vrai que moi aussi, je connais des garçons qui sont puceaux. Et ça prouve quand même que ils sont pas très évolués et pas très épanouis dans leur sexualité.
les jeunes sont inquiets par rapport à ce que représente la sexualité et par rapport à ce que ça va représenter pour ceux qui n'ont jamais encore fait l'amour, docteur Capote.
Oui, bah, y a toujours des représentations sur les premiers rapports sexuels qui sont toujours un peu inquiétantes, mais ça, c'est, j'allais dire, c'est logique. Donc, c'est vrai que ces histoires
C'est logique, oui et non, parce qu'on pourrait se dire que justement, en étant exposé très jeune à la pornographie, il pourrait y avoir une forme d'acculturation par l'image et qu'ils arrivent déjà prêts presque à être des super coups.
Oui, mais c'est les autres qui possèdent la technique, pas encore eux. Donc du coup, le fait de voir des vidéos ou des images ne veut pas dire qu'au moment où je me retrouve à l'instant T à poil avec ma copine ou mon copain sur ma sexualité, je vais être à l'aise au moment du passage à l'acte. Donc il y a toujours quand même cette inquiétude du passage à l'acte. Puis il y a toujours des trucs qui sont véhiculés autour des premières fois. Il y a toujours des mères qui disent à leur fille, tu sais, ça va faire mal ou tu vas saigner. Il y a toujours des injonctions sur les garçons qui doivent conduire un peu les choses. Donc tout ça fait que c'est quand même une pression, ouais, bien sûr.
Et du coup, c'est la réponse, ça peut être quoi? Ça peut être de dédramatiser la première fois, de dire que ça peut-être ne pas marcher, c'est-à-dire qu'on peut ne pas prendre du plaisir et que ça n'est pas grave.
Ouais, bien sûr. Et donc, effectivement, on le disait, hein, les cours d'éducation sexuelle, comme en Suède ou ailleurs, c'est quand même important. Bon, le problème dans ce pays, c'est qu'on est assez hypocrite sur le sujet. On se réveille tous là sur le porno d'un seul coup. Mais est-ce qu'il y a des budgets pour les associations? Est-ce qu'il y a des budgets pour le terrain? Et puis, en même temps, quand on fait la prévention. Mais au moment, par exemple, de la manif pour tous, on a eu droit à, on va apprendre aux enfants dès la maternelle. Moi, j'ai eu droit. Les gamins me posaient ces questions-là. Il paraît que vous apprenez aux enfants en maternelle à se masturber. Oui, bien sûr, on les met tous à poil dans une classe et puis on les masturbe. Non, c'est il y avait beaucoup de fantasmes autour de notre travail. Et c'est pour ça qu'entre autres, j'avais envie d'écrire ce livre, c'était dire rétablir un peu les vérités sur la manière dont on amène la prévention et que quelquefois les mots entre guillemets et les choses un petit peu trash viennent plus des gamins que de nous finalement.
Est-ce qu'on pourrait aller d'ailleurs même jusqu'à en poussant la réflexion un peu plus loin à se dire que à la fois il y a cette diffusion massive justement des pratiques sexuelles extrêmement variées aujourd'hui et d'ailleurs il y a la réalisatrice Ovidie, ancienne actrice porno, qui explique que en fait les réalisateurs, les producteurs de porno, face à cette massification, on va dire à cette démocratisation de la pornographie, sont obligés d'aller de plus en plus dans des niches. Donc il y a aussi une surenchère dans les pratiques qui sont proposées. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'à la fois il y a ce phénomène-là et qu'il y a aussi peut-être en parallèle une forme de retour à un puritanisme, Galafur? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous percevez?
Bah le puritanisme, disons qu'il vient, une fois de plus d'Amérique, hein. C'est c'est toujours le cas. Mais non, dans le BDSM, je vois pas trop le puritanisme. C'est simplement que les jeunes sont complètement perdus. Quand on voit, par exemple, l'influence du pied, du fétichisme du pied, le désir d'être piétiné, d'être écrasé par un pied de femme, le nombre de demandes, de postes, etc. autour de ce sujet, on se pose quand même des questions de la part des garçons. Ça veut dire qu'ils sont pas très bien dans leur peau, dans leur sexualité, pour vouloir être piétiné sur le visage par un pied de femme. Il y a quelque chose qui va pas.
Pauline Verdusier.
Moi, je suis pas sûre qu'il y ait un retour de puritanisme. Du coup, là, je sors du cadre BDSM, mais dans la sexualité en général, il y a des ressources en fait alternatives qui existent. C'est-à-dire que maintenant, il y a des réalisatrices de films pornographiques féministes, hein, comme Erika Lust, qui vont sortir en fait des scripts sexuels traditionnels et phallocentrés, centrés sur le pénis, qui vont proposer d'autres choses. Il y a aussi une plateforme qui existe, qui est assez étonnante, qui s'appelle Oh My God Yes, où en fait, on se connecte et on peut voir des femmes en fait montrer leur sexe face caméra et montrer ce qui, elle, leur fait plaisir. Et en fait, il y a une dizaine ou une quinzaine de méthodes, on va dire. Ça rejoint aussi la question de est-ce que ça peut s'apprendre. Et ça montre, en fait, déjà, une diversité d'anatomie féminine, c'est-à-dire qu'il y a des sexes de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les pilosités. Et il y a aussi, ça montre aussi à quel point les pratiques sont variées et que tous les goûts sont dans la nature. Et du coup, je pense qu'il y a des ressources alternatives qui sont loin d'être pudibondes, notamment des ressources féministes. Il y a des associations qui existent comme les Chahuteuses. Il y a des artistes qui revendiquent ces positionnements-là. Et donc, moi, là-dedans, je vois quelque chose de très positif qui n'est pas pudibond.
Docteur Capote.
Bah, ça peut être une contre-attaque, hein. C'est-à-dire dire, de toute façon, on n'arrivera pas à endiguer le flot de porno sur Internet. Donc moi, je le prends un peu comme un produit de substitution, un peu comme la drogue, hein. C'est-à-dire que je veux sortir un peu du produit, et ben bah, du coup, on va me proposer autre chose qui va m'accompagner entre guillemets dans ma consommation. Donc ça peut être les diriger aussi vers des sites qui sont un peu plus égalitaires, avec du porno ou enfin de la sexualité du moins qui est plus respectueuse des corps et des genres.
Le puritanisme, en fait, vient surtout des médias, enfin de sites comme Amazon, etc., Facebook, où on se fait virer dès qu'on met un téton. Donc le puritanisme vient d'Amérique. Sur Amazon, on ne peut pas mettre un sein sur une couverture de livre.
Mais est-ce que du coup, la meilleure des contre-attaques, ça ne serait pas de revaloriser, de réhabiliter, je rappelle le titre de notre émission ce soir, faut-il réhabiliter le missionnaire du samedi soir, c'est-à-dire aussi réhabiliter ce qu'on pourrait appeler le sexe normal. Évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, acceptons quand même cette façon d'en parler. Je vais à nouveau citer Maya Mazorette, chroniqueuse du Monde, qui a fait un papier là-dessus, je le disais tout à l'heure, qui évoque la zone blanche de la sexualité, c'est-à-dire qui n'est pas la zone grise, un petit peu avec des pratiques un peu plus hors normes, justement, la zone blanche dont elle dit qu'elle est drôle, riche, jubilatoire, elle mérite toute sa place dans les canons de l'érotisme. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que, par exemple, les journalistes comme vous, spécialisés, Pauline Verduzier, dans les questions de sexualité, fasse aussi des articles sur l'amour du samedi soir, la position du missionnaire et finalement des choses peut-être d'une grande banalité, mais qui représentent sans doute, peut-être encore, la majorité de ce que sont les pratiques sexuelles aujourd'hui. On a l'impression que ce sont les pratiques finalement minoritaires qui dominent le traitement médiatique. Je ne sais pas si c'est une impression que vous partagez.
Alors déjà, si je fais un article là-dessus, ça sera justement pour déconstruire l'injonction à la fois, parce que c'est aussi une injonction, le missionnaire du samedi soir. Mais oui, disons que...
Alors c'est très ironique, c'est très second degré aussi, hein, bien sûr.
Ouais. Si je faisais cet article-là, ça ne serait certainement pas pour dire faisons ça comme réponse à la surexposition de pratiques minoritaires et violentes. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que ce qu'il faut réhabiliter, c'est ce qui est bon pour soi et se dire qu'est-ce qui est bon pour moi. Et je voulais juste aussi citer quelques chiffres quand même, parce que le missionnaire, si on aime ça, tant mieux, et bravo et allez-y. En revanche, il y a quand même des gens qui ne s'y retrouvent pas, parce que par exemple, donc dans les façons d'accéder à l'orgasme qui sont citées par les femmes, les chiffres, c'est les caresses manuelles à 50%, les caresses buccales à 40%, la pénétration à 30%, c'est derrière. Et dans la dernière enquête une enquête américaine de 2017 qui interrogeait 52 000 personnes en couple, ce sont les femmes hétérosexuelles qui jouissent le moins souvent. Donc il y a 65% qui ont un orgasme à chaque rapport ou presque. Les hommes hétérosexuels, c'est 95%, les lesbiennes 86% et les hommes gays 89%. Donc je pense qu'il faut quand même s'interroger. Pourquoi ? Parce que probablement qu'il y a un scénario sexuel qui est encore dans la norme hégémonique, qui est celle de centrée autour de la pénétration. Et visiblement, ce n'est pas satisfaisant pour tout le monde. Et je ne suis même pas sûre que ça soit satisfaisant pour les hommes. Malheureusement, ils ne prennent pas assez la parole.
Et peut-être pourrait-il faire un massage avant de pratiquer le missionnaire. Ça serait une bonne manière de se retrouver, d'avoir la tendresse, le cœur, le toucher, etc.
Exactement.
Et d'être un peu plus satisfait. Et massage, le tantra.
Peut-être le font-ils d'ailleurs, finalement. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe véritablement, justement, dans l'intimité d'un couple ou plus que d'un couple, hein, parce que finalement, aujourd'hui, on voit bien que c'est à géométrie variable, ces questions-là. Docteur Capote, vous qui êtes notre médecin ce soir, notre docteur, qui connaissez donc tout.
C'est un titre un peu usurpé, mais oui, enfin, la normalité en sexualité, enfin, chacun sa normalité, après tout, on l'a dit, hein, prendre du plaisir, c'est évident. Moi, je méfie un peu de cette histoire de normalité. L'important, effectivement, c'est de passer un bon moment à deux, ou à plusieurs si on a envie, enfin, chacun sa sexualité. Mais le missionnaire du samedi soir, pourquoi pas. Moi, je crois que le vrai sujet, il est effectivement sur les normes et les stéréotypes qui nous amènent finalement à reproduire ça. Et je le travaille beaucoup avec les jeunes, entre le mâle dominant et ces petites filles éduquées dans la séduction. Il suffit de regarder un catalogue de déguisements, c'est assez drôle quand même. Rire jaune un peu quand même, mais où les filles sont déguisements pour enfants, les filles se tiennent comme ça avec la tête penchée, genre elle est belle, je suis belle, tu vois, mon déguisement est beau, est-ce que ça te plaît, etc. Et les mecs se tiennent un peu en mode viril, très mal dominant, dès l'âge de 6-7 ans, déguisés en en Robin des Bois ou autre chose. Donc on est quand même dans très jeune, on sectorise effectivement, et tout ça crée des vulnérabilités dans la sexualité par la suite, parce que la prise de décision, nous on le voit dans la négociation du préservatif par exemple, et ben du coup on va être plus vulnérable si on nous a éduqués à tout accepter, quoi.
Eh bien, si vous le voulez bien, ce sera la conclusion pour ce soir. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Docteur Capote, je renvoie donc à votre livre « Génération Q ». C'est un recueil de chroniques thématiques aux éditions La Ville Brûle. Pauline Verdusier, on peut vous lire sur Slate, sur Néon, sur Santé Magazine, enfin dans Néon et dans Santé Magazine, et vous êtes membre du collectif Les Journalopes. Et puis Gala Fur, je renvoie peut-être à votre dernier ouvrage, le dictionnaire du BDSM, édité aux éditions de La Musardine.
Dictionnaire illustré,
oui, évidemment, c'est un argument de vente qui est quand même pas négligeable. Merci à tous les trois, merci à l'équipe du Grain. Prune Saez, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Fanny Richet et Antoine Dulster. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son ce soir Alexandre Dang.